Itinérance, une création radiophonique produite par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Donc le corps reste un problème de toute façon. Dans cette société, je trouve plus que dans les années...
L'aspect, le volume, la matière, le message.
C'est
aussi,
et un exercice et aussi un sujet effectivement qui existe depuis que la peinture existe à mon avis.
Je cherche la nudité à travers les âges. Donc quand je vois un musée, souvent je prends comme thème le nu.
Au Moyen-Âge, le christianisme a une certaine réserve à l'égard de l'art figural.
Jean-François Castan, médiateur culturel au musée d'Agde.
Donc il y avait une réserve conditionnée à la fois par l'influence judaïque et par le contraste avec le paganisme antique. Alors au Moyen-Âge, on retrouve surtout donc, des personnages bibliques, donc Adam et Ève, Daniel dans la fosse aux lions, Jonas englouti. On retrouve également par la suite Jésus enfant et Jésus baptisé qui sont toujours nus. Et pour la crucifixion, au début, le Christ n'est pas encore figuré nu. Il était vêtu d'une longue robe. Nous sommes en face d'un chapiteau en pierre de basalte, donc pierre d'Agde, sculpté, daté du XIIIe siècle, donc l'art... S'apparente à l'art roman. Donc ce chapiteau représente donc Adam et Ève et le sacrifice d'Abraham. À la droite d'Ève est représenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc qui est assez un peu effacé par l'érosion de la pierre, par le temps. À gauche d'Adam, on a l'arbre de vie. Ève n'est pas nue, elle porte une robe. Elle se tient donc un sein qui est plutôt pendant, de la main gauche, et de la main droite, elle tend la pomme, le fruit défendu, à Adam. Adam est entièrement nu, il a le sexe dressé en érection et il prend la pomme que lui tend Ève. Alors là, c'est une représentation du péché originel, au moment de l'acte du péché. La nudité était liée au maléfice de la chair, à la concupiscence et à la luxure dans les représentations, mais il pouvait signifier aussi le corps de l'homme à l'image de Dieu. Et dans le côté bénéfique, c'était la nudité sacrée, la pureté, la virginité dans la représentation des corps nus. Donc on retrouve les deux, la nudité sacrée pour représenter la virginité et la concupiscence de la chair de l'autre côté.
Donc j'avais envie de vous parler de ce groupe sculpté où vous voyez Saint-Michel qui terrasse le dragon.
Isabelle Ballon-Barberis, conférencière au musée des Augustins, Toulouse.
C'est une œuvre en fait qui se trouve de la fin du XVe siècle. Ce groupe, quand vous le percevez, vous vous dites qu'il y a un personnage en armure, Saint-Michel, qui est en train de donner une bonne leçon à un personnage immonde, un dragon velu, donc qui est situé donc à ses pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on tourne autour de ce groupe, on découvre un troisième personnage. Et ce troisième personnage est un personnage parfaitement nu, hein, qui a les proportions d'un petit enfant. Et là, on ne comprend pas, on a quelque chose qui nous échappe, mais de toute façon, on est au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, hein, des choses nous échappent, et c'est ce qui nous fascine, bien sûr, hein, à cette période-là. De quoi est-il question ? Eh bien, il s'agit non pas d'un enfant nu, mais d'une âme. C'est la représentation de l'âme. Quand au Moyen-Âge, on voit des enfants nus, il est très rare que ce soit de vrais enfants. En fait, on comprend quand on voit un petit corps nu qu'un homme, qu'une femme est mort, hein, et il y a la certitude ou la conviction profonde que puisque la personne est morte, son âme gagne le ciel pour vivre dans un au-delà. Mais cette âme, pour nous parler du cheminement de cet homme d'ici-bas vers un au-delà, eh bien, on a besoin de lui donner une apparence. Qui pourrait décrire une âme ? C'est difficile. Alors, on a décidé, par convention, de lui donner l'apparence d'un petit enfant. Pourquoi ? Parce que quand cette petite âme ira frapper à la porte du paradis, si elle a l'apparence d'un enfant, il est évident qu'on va lui ouvrir. Parce que son innocence. Donc voilà, c'est une convention. Et tous les petits enfants nus sont des âmes. Parce qu'au Moyen-Âge, qui est nu ? Jésus, Adam, Ève. Mais personne n'est nu. Tout le monde est très habillé.
Cette période du Moyen-Âge où, bien sûr, le corps pour les chrétiens, ce n'est plus le corps plaisir comme il peut avoir été conçu dans l'Antiquité. C'est, l'activité sexuelle, c'est uniquement pour la procréation, donc on va cacher ce corps.
Magali Ramon-Ribaud, docteur en archéologie pour la période antique, musée des moulages, Montpellier.
Mais on a quand même des images de nus au Moyen-Âge. Hein. On a certains Adam et Ève qui sont nus. Enfin, on a les images de martyrs aussi dans les enfers qui sont nus. Enfin, voilà, le corps a été créé par Dieu, donc on ne nie pas le corps, c'est plutôt l'activité sexuelle qui est réprimée en tant que telle.
On ne représente pas les enfants nus, hein. En personne adulte, pas plus, à part donc, eh bien, Jésus sur la croix et puis Adam et Ève. Oui. Et quand une femme a péché, elle est luxurieuse, alors ses seins sont tombants, ses hanches sont saillantes, elle est immonde, hein, parce qu'elle a péché. En fait, il y a comme une raison de convenance. Le corps que l'on montre, ce serait le corps qui serait celui qui tombe dans le péché, qui s'adonne au vice. On ne va pas montrer ça. Alors, quelques personnages sont dévêtus. Je pense par exemple à Job, hein, dont l'histoire est celle d'un homme très riche qui va tout perdre, jusqu'à ses plus beaux vêtements, qui va perdre la santé, et dont le corps est montré quasiment nu, et même au Moyen-Âge, dont les côtes sont saillantes, tellement il est maigre. Mais c'est pour nous dire son dénuement. Mais autrement, on n'insiste pas sur la nudité, en fait. Ce que l'on montre au Moyen-Âge, c'est très souvent, de toute façon, du religieux. Oui. Donc on va avoir des saints, des saintes, des histoires bibliques. Donc il serait certainement inconvenant d'aller jusqu'à voir leur anatomie.
L'Antiquité va être redécouverte à la Renaissance. Donc en Italie, on va creuser, toutes ces statues sortent de terre. Michel-Ange assiste à ces statues masculines nues qui renaissent sous les yeux des hommes de l'époque. Il va s'en emparer et donc Michel-Ange surtout va remettre le nu à l'honneur. À la Renaissance, on a quand même toutes ces statues masculines, hein, les David, les Hercules, etc., qui continuent. Après, c'est plus dans la peinture où on va retrouver ces femmes nues. Donc on a l'archétype de la femme nue allongée sur un lit qui s'offre au regard du spectateur. On a même ces images de femmes nues au milieu d'hommes habillés. Donc là, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc en fait, on assimile vraiment la femme à sa sexualité.
Je vais vous parler d'un bassin, c'est-à-dire d'un grand plat ovale, un bassin qui a été fabriqué à Limoges vers 1568.
Marielle Nicéphore, médiatrice culturelle et guide conférencière, musée Paul Dupuy, Montauban.
Un bassin sur lequel est représentée une scène mythologique n'est autre que celle du jugement de Paris. Hein, voilà donc un sujet mythologique assez connu, puisque le jugement de Paris a été à l'origine de la guerre de Troie. Alors le bassin en question, il aurait été réalisé par un émailleur limousin du nom de Pierre Raymond, réalisé vers 1568-1572. Ce bassin est assez grand, hein, puisqu'il mesure 50 cm de longueur sur 39 cm de largeur. Nous voyons au centre de ce grand plat une scène mythologique. Cette scène est peinte en grisaille. C'est une grisaille qui est relevée de rose, de blanc, d'or, et cette grisaille évidemment est peinte sur un fond noir. Nous avons une composition triangulaire avec un groupe central. Un groupe central qui est formé de Paris, assis, remettant la pomme à Aphrodite. Aphrodite tient l'amour par la main et ses rivales, les rivales d'Aphrodite, l'entourent. Héra est représentée de face, tandis qu'Athéna est vue de dos. Tandis que sur le marli de ce bassin, le marli étant la partie, étant le bord hein, du bassin, la partie plate, sur le marli, on voit un rinceau peuplé de sirènes, de faunes, d'égipans, de sphinges, portant des cornes à boire, des masques, des flûtes. On devine très vite, sans avoir vu le plat, que c'est un objet avec un décor abondant, hein, riche et abondant. Ce plat, ce magnifique bassin a été réalisé à la Renaissance. Et il est clair que Pierre Raymond, un des plus grands émailleurs hein, de Limoges à cette époque, très bon dessinateur, a représenté là un sujet connu, un sujet à la mode. La mythologie, en effet, est très à la mode à la Renaissance. Hein, puisque la Renaissance, c'est aussi ça, c'est la redécouverte de l'Antiquité. Et dans les arts, on va s'intéresser évidemment au nu, hein, car les sculpteurs, mais aussi les peintres, vont travailler d'après les antiques. Ce sont des corps nus hein, qui sont représentés ici principalement, des corps nus ou dénudés. Hein. Alors dans certains cas, on a des drapés, quelques drapés, hein, mais des drapés très suggestifs hein, et très, très légers. Hein. Le nu fait son apparition. Alors, dans l'art de l'Antiquité, on va le trouver principalement dans les sujets mythologiques. C'est le naturalisme hein, de l'Antiquité qui est remis à l'honneur à la Renaissance. C'est la nature, hein, la nature, le naturalisme dans son idéalisation, parce que les Grecs idéalisaient, hein, idéalisaient la nature. Et ici, le corps, hein, le corps humain. Voilà.
Mais il y a toute une période où l'Église va de nouveau remettre un peu la chape de plomb sur tout ça, puisque notamment au Vatican, sur la chapelle Sixtine, vous savez qu'on a confié à un peintre de recouvrir tous ces sexes nus peints par Michel-Ange. Donc il y a toute cette période. Et notamment certaines statues grecques, bien sûr, donc, qu'on va copier, qu'on va imiter, eh bien, on va les copier, mais en rajoutant devant le sexe masculin, par exemple, une feuille de vigne.
La nudité dans l'art à travers les âges. Projet réalisé par RPH Sud, en partenariat avec Radio Lodève, Radio Présence Toulouse, CFM Montauban et les musées d'Agde. Musique de Marc Callas, une production de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.